Bonjour, ici Radio Grand Ciel, studio de Châteaudun. Nous sommes heureux d'accueillir à nouveau Jean-Paul Hardy, qui cette fois-ci va nous parler de l'évolution de l'agriculture en Pays du Noir depuis 50 ans dans notre émission Histoire et Mémoire. Et c'est Henri qui cause actuellement et Jean-Marie qui est à la technique, mais Jean-Marie participera aussi au débat car l'agriculture, il connaît, et puisque c'était également son métier. Alors, tout d'abord, parlons des terres du Pays du Noir.
Alors, bonjour Henri, bonjour Jean-Marie, bonjour chers auditeurs. Alors, moi je suis né donc dans le Dunois, à Villempuy. La Villempuy, c'est la plate Beauce, il n'y a pas beaucoup de bois. Et puis, lors de mes 10 ans, je suis venu sur la commune de Châteaudun. J'ai suivi évidemment mes parents. Et là, c'est une toute autre culture, enfin, toute autre terre, puisque nous sommes un petit peu dans le Faux-Perche, ou même dans le Faux-Perche, ce n'est plus la même terre. Et donc, c'est deux physionomies différentes.
C'est de l'autre côté du Loir.
Voilà. Le Loir est une frontière entre la Beauce et le Faux-Perche, et plus loin, le Perche.
Et quelles seront les caractéristiques des terrains de part et d'autre de cette rivière?
Alors, nous, on préfère évidemment la Beauce, parce que c'est une terre argileuse qui rapporte beaucoup mieux que là où je suis. Mais avec le drainage, puisque nous avons eu du drainage, du côté Faux-Perche, on arrive après à avoir des rendements à peu près comparables à la Beauce. Mais si on a des mauvaises terres en Beauce ou des mauvaises terres dans le Perche, on ne fait pas de miracle, ni d'un côté ni de l'autre.
Donc l'argile côté Beauce est... Et le terrain, plutôt, de quelle nature, côté Perche?
Alors, côté Beauce, c'est très filtrant, il n'y a pas besoin de drainer. Nous, du côté Perche, on a besoin de drainer. Et dans les petites terres, on avait aussi besoin d'irriguer.
La différence aussi des sols calcaires et le sous-sol siliceux. Les sols siliceux que l'on a autour du pays du Noix sont... très abrasif au matériel, et ça a beaucoup de différence sur l'ensemble de l'exploitation.
Tu fais bien de le dire, Jean-Marie, parce que je suis le premier à trinquer, mais toi aussi, puisque tu brassais beaucoup de cailloux, me semble-t-il, dans ton secteur. Malgré que tu sois du côté Beauce, mais il y avait quand même des cailloux là où tu étais.
Les sols en Beauce sont assez hétérogènes, moi j'appellerais ça. Quand on est sur le terrain, il peut y avoir des différences de profondeur de sol et de restitution de l'eau pour la plante qui peut être très différente d'un sol à l'autre. Et ça a beaucoup d'influence sur l'ensemble de la végétation.
Ah oui, tout à fait. Et ça, je m'en suis bien rendu compte. Mais je pense que c'est un petit peu partout quand même. Hein. Même dans toute la France, à chaque fois qu'on rencontre des agriculteurs, ils disent « Ah ben oui, ce bout de champ-là, ce n'est pas la même que par ici, ou bien l'autre côté de la route, ce n'est pas pareil. » Donc il y a plus ou moins de différences, comme tu viens de dire, mais il y a souvent des différences quand même, d'énormes différences.
Et les plantes que l'on va cultiver donc pour la nourriture, est-ce qu'il y a une différence entre côté Beauce et côté Perche pour le choix? Est-ce qu'on fera plus de maïs d'un côté, plus de blé de l'autre?
Alors ça c'était vrai, il y avait beaucoup de différences il y a 50 ans. Parce que du côté Faux-Perche, il y avait davantage de pâture, d'animaux, que du côté Beauce. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, non, je pense qu'on cultive à peu près la même chose, les mêmes espèces d'un côté ou de l'autre, n'est-ce pas, Jean-Marie?
Oui, c'est le travail du sol, et puis surtout la fertilisation qui est de plus en plus suivie par tous nos ensembles d'organismes qui aident l'agriculture, hein, qui suit l'agriculture. Hein, que ça soit par tous les pas que les fertilisants, l'équilibre du sol. Et chercher à trouver l'équilibre du sol par la matière organique qui, donc, qui est indispensable pour faire que, pousser quelque chose.
Alors, faut-il, bien sûr, on a un souci du rendement, utiliser toujours beaucoup d'engrais ou plutôt moins quand même pour. Et puis, il y a d'un côté, les engrais, mais de l'autre côté aussi. Ces plantes peuvent attraper des maladies, alors comment faire pour utiliser des produits phytosanitaires afin qu'elles n'attrapent, que la récolte ne soit pas détruite par tel ou tel micro-organisme ?
L'agriculture a quand même fait de grandes évolutions avec des produits dégradables, chose que l'on n'a pas qu'on n'utilisait pas il y a 15-20 ans. On a utilisé des molécules non dégradables. Et ça, on en subit les conséquences au niveau des nappes phréatiques. Alors, si on a un, et je crois que de plus en plus maintenant, on fertilise les plantes avec par leurs besoins et non pas comme on a utilisé il y a X années par des volumes d'engrais. Maintenant, on fertilise par les besoins de la plante, hein, selon l'évolution de la plante, selon le stade de la plante. On fait beaucoup plus des apports fractionnés que l'on faisait avant, où on faisait un apport massif en début de saison et on croyait que c'était bon pour toute la saison. Ça a été découvert par les essais, par les, hein, et ça a beaucoup d'influence sur les résidus qui peuvent rester au sol.
C'est une amarre double tranchant, hein, les histoires de chimie que l'on met dans le sol. Comme tu viens de dire, on les retrouve dans les nappes phréatiques, mais on les retrouve aussi dans les aliments, hein, dans les végétaux. Les végétaux, ça va dans les animaux, puisque les animaux en mangent aussi. Donc on revient un petit peu vers la nature, mais disons, c'est un petit peu mou, je pense.
Et donc tout cela est le fruit de la recherche en agriculture. Et des effets, donc, ce sont des produits probablement plus coûteux. Et est-ce que donc on est toujours pris entre pour avoir un équilibre du budget, des produits qui ne soient quand même pas trop dispendieux? Non, ça.
C'est difficile à. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à te répondre, Henri, parce que j'étais chimique, hein, j'étais tout chimique, moi, comme tout le monde, hein, comme j'ai appris à l'école. Enfin, quand je dis tout chimique, c'est engrais, produits de traitement et tout ça. Et au fur et à mesure de mon histoire, de mes maladies, et puis je me suis aperçu qu'on n'était pas forcément dans le vrai. Alors aujourd'hui, oui, j'ai cultivé comme tout le monde. J'étais pas biologique, hein, ou pas toujours, pas tout au moins pendant les céréales. Dans les légumes, là, j'étais plus proche de la nature. Mais oui, aujourd'hui, les agriculteurs sont vraiment confrontés avec tous les intrants que l'on met, et puis la baisse des prix du blé qui est quand même dramatique, hein, la baisse des produits que l'on produit, quoi. Ça, c'est vraiment un dilemme. Et puis pour les pessimistes, ils tremblent, hein, devant l'avenir au niveau agricole. Et quel sera dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Ce qui est sûr, c'est que nous, quand on regarde par rapport au début de notre carrière ou même de notre jeunesse, il y a une telle évolution qui est phénoménale. Je ne sais pas s'il y a autant d'évolution dans d'autres domaines. C'est pas sûr, hein, j'en sais rien. Enfin, si, il y a certainement, mais vraiment, nous, on a été bousculés. Quand on pense que dans les années 60, à peu près, on avait, là où j'étais, moi, donc à Châteaudun, on était 30 exploitants. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3. Et toutes les communes, c'est pareil, hein, c'est la même proportion. Il y avait 100 et quelques chevaux. Aujourd'hui, il n'y a plus de chevaux.
Eh bien, faisons maintenant une petite pause musicale avant de poursuivre. Suivons notre entretien à Radio Grand Ciel, studio de Châteaudun, avec Jean-Paul et Jean-Marie. Les structures donc des exploitations agricoles ont beaucoup évolué pendant ces 50 dernières années. Vous pouvez nous en dire quelques mots?
Nous avons perçu la première motorisation dans les années 46 ou 48, à la sortie de la guerre. Chez les premiers tracteurs qui ont, par rapport à la traction animale. Hein. Alors ça a déjà été une évolution énorme. Hein. Et les méthodes de récolte avant où on récoltait, on coupait le blé et on le mettait en gerbe. Bon, alors ça, c'était une période de la moisson durait un mois et demi.
Oui, je sais que tu as
des récoltes.
Toi, tu as
j'ai vécu. Pas, voilà, j'ai vécu ça à l'âge de entre 14 et 16 ans, quelque chose comme ça. On faisait les moissons.
Ça, c'est l'époque de l'allieuse, hein, puis de la batterie, de la batterie à la ferme. Hein.
Ça, c'était, oui, une évolution.
La batterie à la ferme, il y avait au moins une dizaine de personnes autour. Hein.
Et on mettait donc les gerbes coupées en plongeon, et puis arrivait le temps du battage,
voilà.
Donc qui séparait le grain de la paille.
Voilà. C'est ça. Mais alors, faire les récoltes de moissons, il fallait surtout ramasser les récoltes sèches. Et ça, quand les intempéries ne voulaient pas nous aider, ça se prolongeait jusqu'à dans les premiers de septembre. Même des récoltes qui étaient coupées au 20 juillet, au 15-20 juillet. Au mois de septembre, on était encore ceux qui vivent, comment que ça va hein. Bon, ça c'était les... Mais les nouvelles techniques ont complètement bouleversé les périodes de récolte.
Oui, là, tu es en train de dire qu'on récoltait pendant un mois et demi à peu près. Hein, et aujourd'hui, en 8 à 10 jours, c'est quasiment fini. Hein. Et puis, en plus, c'est avancé. On commence plus tôt aujourd'hui. Ouais. Mais toi, Henri, tu as quelque chose à nous dire, puisque dans ta jeunesse, tu as confronté le monde agricole. Alors, j'aime bien savoir aussi. Raconte-nous.
Écoute, à l'instant où tu me causes, j'étais en train d'évoquer tout cela. Et justement, c'est le contraste sur le plan donc, des liens humains dans le travail entre maintenant où l'agriculteur, j'imagine, est souvent seul. Dans son gros tracteur, bien sûr, il a la climatisation, il a la chaîne stéréo. Alors qu'autrefois, pour le battage, c'était C'était la fête à la ferme, parce que tous ceux qui travaillaient dans les fermes voisines venaient dans la ferme où il y avait la machine pour battre le grain. Et donc c'était vraiment là. Tout le monde travaillait ensemble et après, toutes les dames s'occupaient de nourrir tout ce monde qui avait grand faim. Et c'était vraiment dans une ambiance très joyeuse que se passaient les repas. Et on les canards, combien de canards est-ce qu'on avait donc préparé pour régaler l'assistance à cette époque. C'est vraiment... Là, c'était vraiment du... parce qu'en fait, nous les humains, on est heureux quand on est ensemble. Et la solitude, tout seul dans son tracteur, ben, c'est pas le top. Hein. Vous allez pouvoir continuer là. Donc l'échange.
Oui, tu as raison. Tu as raison, Henri. Hein, c'est vrai. On est dans notre tracteur maintenant, dans les cabines climatisées ou même dans la moissonneuse. Hein. Quand je moissonnais, moi, ou ma femme, parce que ma femme conduisait bien la moissonneuse, dans les années 70, oui, puis 70-80, il n'y avait pas de climatisation. La poussière du convoyeur, c'est-à-dire juste sous le volant, il y avait tout un nuage de poussière, et quand ma femme descendait de la moissonneuse-batteuse, eh bien, elle avait changé de couleur, elle était devenue une négresse. Oui, ça c'est vrai, là, il y a eu un changement terrible. Vraiment, pour la moissonneuse-batteuse, la cabine et puis la climatisation, je pense que c'est relativement un progrès. Mais au détriment, comme tu as dit, qu'on se retrouve un petit peu dans la solitude, il faut le reconnaître. Et bah c'est les téléphones qui remplacent le contact humain.
Alors dans le budget, autrefois, c'est vrai que le budget du facteur humain est même en ce moment beaucoup plus important qu'autrefois, parce que les charges sont plus importantes, en particulier parce que moi je pense toujours à ça, c'est que on a vraiment des soins médicaux vraiment qui sont très en France, qui sont vraiment très 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 bien, mais ça a un coût, et plus ça va, plus ça a un coût. Alors ça, entre autres, maintenant un cultivateur maintenant ne pourrait pas donc avoir beaucoup d'employés, parce que les salaires ça monte vite, les charges salariales. Par ailleurs, mais alors, à contrario, ces gros engins maintenant, ces moissonneuses, batteuses, entre autres, et autres, c'est également un coût très, très, très important. Mais j'imagine que les chefs d'exploitation peuvent se partager la même machine, hein, pour réduire les frais.
Oui, en partie, puisque maintenant, des matériels isolés, il y en a presque très peu. Soit c'est sous forme de groupes d'agriculteurs qui possèdent une ou deux appareils en plusieurs exploitations, ou vraiment des gens qui ont une entreprise spécialisée qui font de l'entreprise. Il y a beaucoup de travaux agricoles maintenant qui sont faits par entreprise. Tout ce qui est... récolte des légumes que l'on voit de plein champ maintenant, les trois quarts sont faits par des entreprises ou des organisations de groupes de producteurs. Il y en a quelques-uns en isolé, mais très peu, très 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 peu maintenant. Hein, ça c'est... mais c'est les besoins économiques qui ont fait pousser ce genre de choses, certainement. Hein.
Là, je voudrais qu'on parle du maïs, hein, parce que le maïs en Beauce, c'est quand même assez récent. Hein, et ça, c'est dans les années, les premiers pieds de maïs qu'on a pu voir, c'est dans les années 60, hein, guerre avant. Et ça a été vraiment une révolution, nous, dans notre secteur, puisque peu de temps après, on a mis l'arrosage, mais quand on a mis l'irrigation dans les céréales, c'est surtout pour le maïs. Mais Jean-Marie, tu as une expérience. Hein, raconte-nous ton expérience de récolte là, pour le maïs. Là,
oui, le maïs, ça c'était une récolte, mais c'est surtout La plante, que lorsqu'on arrive à lui faire à bien la faire pousser, elle restitue les trois quarts en humus 2 ou 3 ans après. C'est un cycle un peu long. Mais ça a été un moyen de garder une fertilisation en humus des sols de Beauce. La culture de maïs a été un des facteurs. Hein. Ça a été là où il y avait des milliers de troupeaux de moutons en Beauce dans les années 50. C'est le maïs qui a énormément remis et maintenu en équilibre les sols beaucerons.
Le but, c'est-à-dire la partie de maïs qui n'est pas coupée avec la racine et qui reste dans la terre. D'accord.
Et la partie aérienne que l'on fait pourrir, qui met peut-être 2 ou 3 ans, hein, mais qui fait une bonne restitution de la partie de l'humus.
Alors qu'avant, c'était
les fumiers.
Les excréments des moutons,
voilà, c'est ça. Voilà. Ça a été... ça a simplifié beaucoup tout le cycle de fertilisation des sols. Hein.
Eh bien, encore une petite note de musique avant de continuer. Alors, donc, nous poursuivons notre évolution de l'agriculture en Pays du Noir sur ces 50 dernières années. Et on voit en particulier que par le passé, c'était surtout du blé. Et puis maintenant, de plus en plus, outre le maïs, on voit le colza, on voit même des pommes de terre et encore d'autres pousses qui arrivent maintenant. Et c'est très joli d'ailleurs au printemps, les champs jaunes à cause du colza.
Oui, oui. Alors là, Henri, là, on parle de l'évolution des cultures. Alors, si je reprends à la base, c'est-à-dire quand j'avais mes 10 ans, mes parents, ils avaient une centaine de bêtes à cornes qu'on appelle, hein, vaches pour le lait, vaches surtout pour la viande. Et la méthode de culture à cette époque-là, évidemment, était basée pour l'alimentation des animaux. Et sans, enfin, pas que ça, mais beaucoup. Et en plus, on faisait des haricots, on faisait du trèfle incarnat. Il y avait certaines cultures qui ont été abandonnées quand le maïs est arrivé, comme on a dit, dans les années 60. La disparition des troupeaux aussi, hein, des troupeaux de vaches. Et on faisait donc du maïs, du blé, de l'orge d'hiver. Et puis après, il est venu une évolution que moi, je faisais partie, parce que dans les agriculteurs, dans une certaine catégorie d'agriculteurs beaucerons, c'est les porte-graines. Alors j'ai commencé à faire des porte-graines de betteraves, de carottes à graines, de haricots, de tout un tas d'espèces... de potagères, et nous étions quand même un bon groupe d'agriculteurs beaucerons qui avons fait cela, et à une condition à l'époque quand nous avons commencé, et même encore aujourd'hui puisque ça se poursuit, il fallait l'arrosage, hein. Alors ça, c'est toute une période pour moi de ma vie qui était importante, parce que c'était un gouffre à main d'œuvre, ce truc, et puis c'était un moyen pour essayer de nous sortir de notre au niveau financier. Voilà. Alors aujourd'hui, les agriculteurs, ils sont tournés, comme tu as dit tout à l'heure, vers les pommes de terre. Et on voit des champs immenses de pommes de terre. Ce qui est aussi important, c'est les silos ou les hangars de pommes de terre pour qu'on puisse les stocker et puis les distribuer tout au long de l'année. Ça a changé la physionomie là, depuis une bonne dizaine d'années, une quinzaine d'années. Je pense que c'est les pommes de terre qui sont le plus important là, je pense, hein, n'est-ce pas Jean-Marie?
Et dans cette évolution, il y a aussi le rôle des coopératives agricoles qui calculent un peu ce dont le monde a besoin, ce qu'il faut fournir. Et puis aussi, la variété, ça doit être bon pour les sols, de ne pas toujours faire la même culture au même endroit.
Alors ça, c'est l'idéal, évidemment. Hein. C'est l'idéal de changer l'assolement que nous disons. Mais pour les céréales, c'est un petit peu moins pointu quand même, parce qu'on peut arriver à faire du blé sur du blé. Mais quand on touche avec les potagères, hein, les légumes, alors là, c'est beaucoup plus long. Hein. Si on fait des pommes de terre, je crois qu'il faut 5 ans d'intervalle. Et puis, les melons, c'est pareil. Les fraises, c'est encore beaucoup plus long. Et puis, on s'aperçoit même quand on fait 3 emblavements de fraises sur 15 ans, au bout de 15 ans, les fraises, ils ne poussent plus. Hein. Ça, c'est vrai, l'assolement, il est important. Et nos grands-parents respectaient cet assolement. Et puis aussi, laisser les terres en friche, tu vois, se reposer.
Donc, les pommes de terre, quand on a fait un champ pendant une année, après, il faut attendre 5 ans avant de ressemer pour les pommes de terre.
Ben oui, beaucoup de ces cultures-là, sinon ben les rendements ils baissent. Il y a des maladies qui s'installent et puis qu'on ne peut pas lutter. Et même on a déjà des problèmes là, avec le blé dur là, en ce moment, là, la mosaïque. Certains agriculteurs se demandent si on va pouvoir encore continuer à cultiver du blé dur. Pour le moment, on trouve le moyen de l'ensemencer à tard, comme ça. Quand je dis tard, c'est au mois de fin novembre. Même décembre.
Les blés durs, c'est pour faire des pâtes, c'est ça?
Oui, c'est... Oui. Le blé, c'est en gros, c'est le pain, et le blé dur, c'est les pâtes. Enfin, c'est vite dit, hein, mais c'est...
À une époque, c'était les Italiens qui avaient plutôt l'exclusivité du blé dur, mais ce n'est plus comme ça maintenant, alors.
Ah ben oui, les Français, ils sont venus là, et ils ont grignoté. Alors, notre secteur de Beauce prend un tiers de la part française de blé dur. On a trouvé que les blés durs, ils poussaient bien. Ils avaient de bonne qualité.
Bon, écoutez, avec tout ce tour d'horizon, on va quand même espérer être optimiste pour l'avenir, malgré les difficultés, tout ce qu'on voit maintenant, les cours du blé en particulier et de tout le reste. Essayer toujours de s'adapter à la conjoncture en essayant bien sûr d'être le plus soigneux, le plus respectueux de la nature qui nous entoure. Comme on disait en début d'émission, la terre que le bon Dieu nous a confiée, c'est à nous de la faire prospérer avec dans son plan, selon son idée qui sûrement il doit toujours nous donner de bonnes idées, mais c'est à nous de bien les chercher, de les trouver, de les mettre en œuvre. Encore merci et à une prochaine fois.
Merci à tous et merci aux auditeurs.